Explose le cadre, le podcast qui booste votre niveau de confiance pour vous aider à prendre votre place. Chaque mois, je questionne des femmes inspirantes que je nomme affectueusement les parfaites. Ces femmes qui ont su dépasser leurs peurs, s'affranchir du regard des autres et gravir des montagnes pour réaliser leur rêve. Elles partagent avec nous leur vécu, les expériences marquantes de leur vie et leurs meilleurs conseils. Explose le cadre, c'est plus qu'un podcast. C'est un show enrichissant et divertissant qui vous aide à passer concrètement à l'action pour devenir une femme plus confiante, forte et audacieuse. L'objectif ici est de revisiter nos croyances limitantes pour littéralement exploser notre cadre. Ici, pas de chichi, nous sommes là pour bâtir notre avenir et concrétiser nos rêves. Alors, c'est parti! Moi, c'est Christelle. J'ai créé ce podcast avec pour ambition de vous faire sortir de votre coquille et de vous aider à vous reconnaître et à considérer vos valeurs. J'ai, depuis ma plus tendre enfance, manqué cruellement de confiance en moi et d'estime de moi. Mon jeu préféré était celui de la souris. Vous savez, la fille qui rêve d'être invisible aux yeux des autres. Mais pas facile quand on a un profil atypique. Je me dévalorisais sans cesse et me jugeais durement, que ce soit physiquement comme intellectuellement. Mon dicton préféré était « Je suis trop nulle ». Mais j'ai depuis eu la chance de découvrir à l'âge de 11 ans le développement personnel au travers de la sophrologie. Et je dois dire que ça a transformé ma vie. Après des années et des années de travail sur moi, je suis de plus en plus sensible à la souffrance des femmes qui m'entourent et qui vivent encore ce sentiment dévastateur. Aujourd'hui, je souhaite synthétiser tous ces apprentissages au même endroit et sous une forme ludique, mais surtout sans prise de tête. Voyez cette capsule comme un bon moment entre amis, un bon verre à la main et une ambiance musicale funky. Alors maintenant que le cadre est posé, je vous propose de commencer. Bonjour Farpette! Dans cet épisode, tu vas découvrir Nolwenn Poens, spécialisée dans les natures et intelligences multiples. Tu vas découvrir quelles sont les 8 intelligences et les 9 natures et comment s'expriment les intelligences à travers les natures. Tu vas également découvrir comment utiliser ce fabuleux outil pour apprendre à mieux te connaître et te comprendre et notamment te définir peut-être une meilleure carrière, un meilleur métier, quelque chose qui soit plus aligné avec tes profondes motivations. Et enfin, tu vas pouvoir connaître et apprendre à utiliser et à t'approprier ta nature organisationnelle. Eh ben oui, il existe une nature organisationnelle et dans cet épisode, tu vas découvrir comment l'apprivoiser et comment mieux t'en servir pour qu'elle te soit utile au quotidien dans ta planification. Et la nouveauté, c'est que tu peux télécharger dans la description ta fiche de prise de notes pour pouvoir... y retrouver toutes les informations importantes et essentielles pour toi. À tout de suite! Bonjour Nolwenn, bienvenue dans Explose le cadre.
Bonjour Christelle, merci de ton invitation.
Eh ben, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour partager ta passion et toutes plein de surprises que tu vas pouvoir nous partager aujourd'hui. J'en dis pas plus. On va commencer par une prise de température ou sinon plutôt une prise de confiance. Si sur un niveau de 1 à 10, tu pouvais nous partager ton niveau de confiance en toi au quotidien, tous les jours, dans ta vie.
Mais ça, c'est quelque chose qui bouge tout le temps, la confiance en soi. Donc, je ne peux pas te donner un chiffre sur ma confiance au quotidien parce qu'elle varie. Il y a des jours où je me sens très en confiance et puis d'autres fois moins. Et c'est aussi OK que ça soit comme ça.
Tu le vis bien ?
Ben, je crois que c'est un apprentissage en fait d'accepter que ben ouais qu'il peut y avoir des hauts, des bas, que la motivation elle est pas toujours au top et voilà ça me fait un peu penser aux accords Toltec quand on dit ben quand on fait du mieux qu'on peut déjà et qu'on a fait le max ben soyons satisfaits de ce qu'on a pu faire même si c'est pas le top du top donc ouais je crois que c'est important d'apprendre à être tolérant avec soi-même aussi, puis accepter que, ben, voilà, des fois, c'est pas le bon jour.
Ça marche. Et pour continuer cette mise en bouche et faire plus ample connaissance, je te propose un portrait chinois. Mm-hmm. Es-tu prête ?
Oui, j'aime bien jouer. J'adore les jeux.
Si tu étais un dessin animé. Mm-hmm.
Si j'étais un dessin animé, waouh! Je pense que je serais un manga, je ne saurais pas lequel dire particulièrement, mais peut-être même plus des mangas de jeux vidéo. Là, dernièrement, j'ai découvert un jeu qui s'appelle Genshin avec mes enfants, parce que là, qui sont ados. Et je choisirais ça parce que j'adore les graphismes, en fait. Je suis hyper, vraiment très réceptive à l'art visuel et je trouve ça trop bien fait. Donc, un manga.
Ok. Si tu étais une mauvaise habitude.
Ben, je serais sûrement mon petit tic que j'ai tout le temps là, à jouer avec ma lèvre comme ça, quand je réfléchis ou quand je suis un peu stressée. Ça, c'est ma mauvaise habitude.
Si tu étais un sport.
Oh, je serais un sport cool. Hein. Je serais un sport genre. Celui que je pratique, c'est du yoga aérien. C'est du yoga dans les hamacs. Là. Sûrement quelque chose un peu aérien. J'aime bien. J'ai fait du parapente. J'aime bien l'élément air. Mais un truc ouais, soft. Tranquille.
Si tu étais un livre.
Si j'étais un livre, le dernier là, qui m'est revenu en mémoire et que je suis retournée visiter, c'est Le prophète de Khalil Gibran.
Si tu étais un animal.
Souvent, c'est le caméléon qui me vient. Parce que je pense que j'ai été très caméléon pendant longtemps à m'adapter beaucoup. Et voilà, aujourd'hui, je serai aussi le caméléon, mais avec ses propres couleurs.
Si tu étais une pièce de la maison.
Je serais, je pense, le salon.
Ok, si tu étais une cause.
Ça serait le droit à la différence.
Et pour embrayer sur notre sujet du jour, si tu étais une intelligence.
Oh là là. Je ne peux pas en être qu'une seule parce que nous en avons plusieurs.
Ah, tiens donc.
Je vois venir la transition.
Justement, est-ce que tu pourrais, au travers cette dernière question, te présenter et surtout nous dire quelle humaine es-tu ?
Vaste sujet. Alors, est-ce que j'embraye directement peut-être sur le sujet des intelligences et des natures multiples, puisque je pense qu'on va l'aborder à travers ce podcast. Moi, je suis une femme de bientôt 50 ans. Je vais fêter mes 50 ans au mois d'octobre cette année. J'ai un cursus de formation initiale dans l'animation et dans l'éducation. J'ai été animatrice, j'ai été éducatrice avec ce souhait de travailler notamment avec les personnes porteurs de handicap. Et je pense que j'ai vraiment quelque chose avec... J'ai ce goût de travailler avec des gens qui sont un peu différents, je crois. Des personnalités un peu atypiques, des gens qui peuvent avoir des troubles, divers et variés. Mais la vie a fait que, je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée dans le monde de l'insertion professionnelle. Donc, j'ai fait plus de 18 ans dans le secteur de l'insertion professionnelle, toujours dans l'accompagnement des personnes en difficulté, éloignées de l'emploi. Mais en fait, petit à petit, je me suis éloignée de ce travail d'éduc que j'avais choisi aussi parce que je voulais être auprès d'un public porteur de handicap et parce qu'il y a aussi dans ce métier une partie qui va toucher à l'apprentissage par des outils qui peuvent être de la médiation artistique, chose que je fais aussi dans mon métier. La ludopédagogie, Moi, je suis à la fois une intellectuelle, mais je suis aussi une manuelle. Je l'ai découvert un peu plus tard parce que, assez jeune, on m'a dit, tu te débrouilles quand même pas trop mal à l'école, continue tes études. Sauf que moi, je voulais faire les beaux-arts et mes parents m'ont dit, tu vas pas faire les beaux-arts. Artiste, c'est pas un métier. Ah, bon. OK. J'ai fait éduc. Je ne suis pas complètement trop éloignée des choses qui sont importantes pour moi parce que je suis quelqu'un de la relation. C'est quelque chose d'hyper important pour moi, la relation à l'autre, mais la relation à soi aussi. Ce sont aussi des intelligences. La relation aux autres, c'est ce qu'on appelle l'intelligence interpersonnelle, la capacité à créer du lien. Et l'intelligence intrapersonnelle, c'est aussi la capacité à créer de la relation, mais avec soi-même. Donc, quand tu disais tout à l'heure, j'ai découvert le développement personnel très tôt et c'est ça qui m'a fait avancer. Je suis un petit peu comme toi par rapport à ça. Et de fil en aiguille, le temps passait. Je suis restée très longtemps dans le même métier, mais parce que j'ai pu rebondir grâce à des congés parentaux quand j'ai mes enfants, diverses formations que j'ai pu faire parce que j'ai besoin d'apprendre, parce que je peux m'ennuyer dans la routine, parce que j'ai besoin de sens dans mon travail. Et si je n'avais pas eu tout ça, en fait, je crois que j'ai à un moment donné, j'ai épuisé ma créativité qui est très forte. Alors, on en reparlera, mais la créativité, c'est une nature pour le coup, une tendance. Et je pense que je l'ai épuisée à essayer de trouver des stratégies pour pouvoir rester dans mon job. Le CDI, c'est le Graal. Enfin, du moins, c'est un peu ce qu'on m'avait transmis dans ma famille. Et au fil du temps, ça n'allait plus, quoi. À un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai plein d'outils dans ma valise, j'ai plein de formations. J'aime l'art graphique, j'ai envie d'accompagner avec ça. J'aime la méditation, je suis formée en accompagnement psychocorporel aussi. J'ai envie de mettre davantage ça dans ma vie. Et il a fallu du coup que je bosse beaucoup, beaucoup sur moi pour faire sauter toutes mes croyances, toutes mes peurs, tout ce qui me bloquait, qui me limitait dans mon cheminement, jusqu'à ce que le confinement arrive. Et j'avoue que pour moi, ça a été vraiment une opportunité parce que ce projet, il était dans ma tête déjà depuis très longtemps. Et quand le confinement est arrivé, ça faisait une semaine que j'étais en arrêt de travail parce que justement, j'avais besoin d'y voir plus clair. Et là, j'ai eu 3 mois pour pouvoir vraiment me poser pendant ce confinement. Et j'ai fait de la méditation et j'ai repris mes pinceaux. Je faisais un tableau par jour. Et je n'ai pas repris mon travail tout de suite parce que ce n'était pas possible. Donc, j'ai eu une mise en chômage partiel qui, du coup, m'a permis de me lancer, de me financer une formation, de créer mon site Internet, de bosser sur tout ce que j'avais besoin, moi, de développer en termes de compétences, donc plutôt le volet tarifaire, commercial, communication, tout ça. Et puis, quand on m'a dit, tu peux revenir travailler, je dis, non, en fait, si je peux plus revenir travailler, pas comme avant, en tout cas. Et je me suis dit, vas-y, ose, quoi. Lance-toi, parce que il y a une partie de moi qui me disait, j'ai pas envie de me retrouver à 80 ans en me disant que je suis passée à côté de ma vie parce que j'avais trouille et que je suis restée dans ce CDI jusqu'à la retraite. Voilà, donc le jour où je suis partie pour annoncer ça, j'avais vraiment deux parts en moi, une qui était flippée de se dire « mais tu fais n'importe quoi » et l'autre qui était tellement en joie et qui disait « mais ouais, mais ok, elle est un peu folle, mais c'est trop bon quand elle est folle, Nolwenn aussi ». Voilà, et depuis, je suis sur ce parcours d'auto-entrepreneuse, multicasquette, j'aime bien dire, un peu slasheuse. Parce que j'ai des activités très variées. Je suis art pédagogue. Donc, j'accompagne en individuel des personnes et des enfants, des adultes sur des problématiques personnelles. Mais je fais beaucoup d'ateliers de groupe aussi. J'ai travaillé avec des jeunes en difficulté d'insertion professionnelle. Donc, c'est d'accompagnement par la médiation artistique. Je fais aussi des ateliers créatifs. Vraiment axé loisirs pour les enfants. Je fais partie d'une association qui s'appelle Compagnons Jeux, où là, on est à fond dans l'animation, dans le jeu, dans la ludopédagogie. Donc ça, c'est vraiment ma petite fille qui se régale quand je peux travailler avec eux. Et puis, à côté de ça, j'accompagne aussi des personnes sur de la reconversion professionnelle dans le cadre de bilan de compétences. Donc en gros, mes spécialités, on va dire, ça va être la médiation artistique et l'orientation professionnelle.
Super, merci. Et pour clarifier le sujet du jour, c'est quoi une intelligence et c'est quoi une nature et pourquoi multiple ?
Ok. Ce qu'on va nommer intelligence, ça va être plus des capacités, c'est-à-dire des compétences. Et les natures, c'est plutôt des tendances, des élans qu'on va avoir assez naturellement et assez spontanément. Et les deux fonctionnent ensemble. C'est-à-dire qu'une tendance, je donne un exemple, par exemple, si je prends la nature éducative, c'est la tendance à aimer transmettre de l'information, à aimer apprendre et faire apprendre. Donc, une nature éducative, si elle est d'un niveau assez élevé, pourrait, par exemple, s'exprimer à travers une intelligence généralement aussi plutôt élevée. Mais par exemple, si je prends l'intelligence linguistique, qui est l'intelligence plutôt en lien avec les langues, avec le verbe, les mots, la lecture, l'écriture, cette personne pourrait faire un bon prof de français ou de langue, par exemple, parce que sa nature éducative s'exprimerait à travers son intelligence linguistique. Ça, c'est pour expliquer, en fait, que les natures s'expriment à travers nos intelligences.
D'accord. Et on en a combien d'intelligence et de nature ?
Alors, les intelligences, c'est un concept qui a été développé dans les années 80 par un neuropsychologue qui s'appelle Howard Gardner, donc un psychologue américain, qui s'interrogeait sur notamment les tests de QI, puisqu'à l'époque, il existait surtout un seul type de test de QI, et il a développé cette idée qu'effectivement, il y avait plusieurs façons d'être intelligent au monde. Donc, lui, il a décliné 8 formes d'intelligence, dont l'intelligence linguistique dont je viens de parler, l'intelligence logique, qui va être plus en lien avec les mathématiques, le calcul. Et ce sont deux intelligences qui sont mises très en avant dans notre système éducatif scolaire. Mais effectivement, il y en a d'autres, notamment l'intelligence musicale, donc la capacité à reconnaître des instruments de musique, à garder un rythme, à jouer d'un instrument de musique. Il va y avoir l'intelligence naturaliste, qui est la capacité à se sentir en osmose avec la nature, avec les animaux. L'intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a l'intelligence visuelle et l'intelligence kinesthésique. Ces deux intelligences-là, donc voilà, Howard Gardner les avait désignées comme ça. Et moi, j'ai découvert ça il y a déjà, je pense, au moins 10 ans. J'avais trouvé vraiment le concept génial et je l'avais utilisé dans le cadre de mon travail, justement, pour accompagner les personnes éloignées de l'emploi à identifier, en tout cas à comprendre qu'effectivement, ce n'était pas parce qu'ils avaient raté leur cursus scolaire qu'ils n'étaient pas intelligents. Parce que ben, forcément, si on n'a pas une intelligence logique et linguistique très élevée, on peut vite se retrouver catalogué comme étant un mauvais élève, alors que peut-être que les potentiels se trouvent ailleurs. Et puis, donc le temps a passé et j'ai découvert, il y a 3 ans, je pense, qu'un autre Américain, un pédagogue, cette fois-ci, qui s'appelle Steven Rudolph, avait repris les travaux de Howard Gardner. Il les avait affinés. Donc, en fait, Steven Rudolph, il a décliné 10 intelligences au lieu de 8, c'est-à-dire qu'il a repris l'intelligence kinesthésique qui est en lien avec le corps, il l'a décliné en intelligence corporelle brute et intelligence corporelle fine. L'intelligence corporelle brute étant la capacité à bouger son corps. Donc là, on va être, par exemple, les sportifs ont une intelligence corporelle brute généralement élevée. Ils sont agiles, ils sont à l'aise pour pratiquer du sport, des mouvements, etc. Et l'intelligence corporelle fine, ben, c'est plus l'intelligence des mains. Donc là, on va être dans plutôt la précision, la capacité à utiliser des outils, ce genre de choses. Et il a repris aussi l'intelligence visuelle et il l'a déclinée également en deux intelligences, l'intelligence visuelle graphique, où là, on est plus sur le dessin, le 2D, en fait, le fait de colorier, de griffonner, de faire des dessins, et la visuelle spatiale, où là, on est plus dans la capacité à se gérer dans l'espace. C'est le sens de l'orientation, c'est la capacité à conduire un véhicule, à optimiser une place dans une valise, par exemple, voilà, ce genre de choses. Donc, Steven Rudolph, voilà, il a repris les travaux de Howard Gardner et à côté de ça, il a continué à se questionner. Il a ouvert une école en Inde parce que c'est quelqu'un qui a vécu plus de 20 ans en Inde. Il s'est intéressé aussi aux textes védiques et en fait, il a développé un concept en mixant à la fois les sciences modernes et les sciences plus traditionnelles. Et il a développé ce concept d'être aligné en fait avec ses natures et ses intelligences. Et en observant ses étudiants, c'est là qu'il s'est dit mais il y a autre chose qui sous-tend une vocation. Qu'est-ce qui fait que par exemple, dans mes élèves, j'ai 3 élèves qui ont une intelligence musicale très élevée. Ils sont super bons en musique tous. Et pourquoi il y en a un qui va devenir, par exemple, auteur-compositeur? Et puis, pourquoi un autre va aller faire des concerts et des tournées? Et pourquoi un autre va devenir enseignant? Et c'est là qu'il a développé le concept des natures. Donc, on retrouve 9 types de natures. Je vais les lister comme ça, on pourra éventuellement revenir dessus, mais on retrouve donc la nature protectrice, qui est une tendance à vouloir protéger, mais ça peut être protéger les gens, comme protéger la nature, comme protéger le patrimoine ou la culture. On retrouve la nature éducative, donc celle dont je parlais tout à l'heure, la tendance à transmettre des apprentissages. La nature organisatrice, qui va sûrement te parler et parler à tes auditrices. La nature créative, donc là, on est plus sur la nature créative, ce n'est pas tant le dessin, la danse ou les arts, c'est vraiment en lien avec les idées. C'est la capacité à générer des idées, à trouver des solutions nouvelles. Voilà, on retrouve aussi la nature guérisseuse. Donc ça, c'est la tendance à prendre soin des gens, à leur donner des astuces pour qu'ils se sentent mieux, par exemple. Donc, c'est tous les gens qui vont s'intéresser aux différents types de guérison possibles, allopathiques, plantes, nutrition, etc. On va avoir la nature animatrice. Ça, la nature animatrice, c'est la nature des gens qui aiment faire le show, qui aiment faire de... Voilà, les gens qui sont... J'allais dire qu'ils cassent la blague, comme on dit en créole à La Réunion, mais voilà, qui ont la blague facile, qui mettent l'ambiance et généralement, on se souvient d'eux. On a encore la nature serviable. Là, la nature serviable, c'est une tendance naturelle à rendre service aux gens. La nature entrepreneuriale, la capacité à développer de la valeur ajoutée, j'ai envie de dire. Et puis, la nature aventurière, donc ça, c'est le goût du risque, le goût du challenge. Ce n'est pas que forcément les sports à risque, c'est aussi le côté de se lancer des défis et de se challenger, comme par exemple quand on quitte son emploi en CDI pour ouvrir son entreprise. Okay, voilà pour un peu la présentation des intelligences et des natures.
D'accord, bah merci pour ce panorama. Est-ce que ça veut dire que les natures sont plus innées et que les intelligences se façonnent avec nos expériences de vie, ou est-ce que c'est des choses innées de base?
Alors, on peut développer des compétences dans tout. Les natures sont effectivement des choses qu'on peut déjà identifier assez tôt chez des enfants quand même. Mais les intelligences aussi, hein, j'ai envie de dire, un enfant qui aura une intelligence corporelle brute élevée, on va avoir du mal à le tenir en place parce que c'est un enfant qui va avoir besoin de bouger, de courir, de grimper dans les arbres. Voilà. Après, effectivement, certaines personnes me disent, bah oui, ma intelligence musicale, je ne suis pas née dans une famille de musiciens, donc forcément, je n'ai pas pu le développer ce côté-là. Oui. On est aussi construit par notre éducation, par notre entourage, notre environnement, mais pas que. Je pense qu'assez intuitivement, un enfant qui a une intelligence musicale, il va aller trouver des trucs, une cuillère en bois, une casserole. Voilà, il va trouver un moyen de créer du rythme ou quelque chose. Et après, on peut évoluer dans tout. Maintenant, les natures et les intelligences, bah, comme je disais tout à l'heure, on les a toutes, mais à des degrés différents. Donc, certaines peuvent être élevées, voire très élevées. D'autres vont être peu élevées, voire très peu élevées. D'autres encore peuvent être moyennes. Donc, ça, c'est un peu les 5 niveaux de classification qu'on a, nous, quand on fait passer le ML test, le test sur les natures multiples aux personnes. Et tout le travail, ça va être ça, en fait, d'aller identifier le niveau de chacune d'entre elles pour savoir... surtout, pas tant pour savoir quelles sont les fortes et les moins fortes, c'est pas tant ça, mais c'est cette idée du tigre, en fait, que moi j'aime bien prendre parce que ça explique bien. C'est l'idée que c'est comme si toutes ces natures et ces intelligences, c'était des tigres à l'intérieur de nous. Et donc, c'est important de savoir si, par exemple, mon tigre organisateur, est-ce que c'est un petit tigre, un moyen tigre ou un gros tigre? Parce que tous nos tigres, ils vont avoir besoin de manger, mais les petits tigres, ils vont manger moins que les gros tigres. Donc, et c'est là que ça devient. Donc, c'est un outil qui nous permet de mieux nous connaître, mais en plus, une fois qu'on a conscience de ça et de notre niveau entre nos natures et nos intelligences, on peut s'observer et se voir fonctionner et identifier. Ok, est-ce que là, je n'ai pas trop mobilisé d'activités qui sollicitent mon tigre organisateur parce que je sens qu'à l'intérieur de moi, je ne suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai une tension interne, je sens dans mon corps. Ok, je m'arrête, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, j'ai bossé sur l'ordi toute la journée. Ok. Et donc, de quoi j'aurais besoin? Ben, mon tigre naturaliste, lui, là, il a besoin d'aller prendre l'air et il a besoin aussi que je m'occupe de lui. Donc, en fait, ça va être ça un peu. Et c'est du réajustement perpétuel, en fait, parce que chaque jour, on fait des choses différentes. Mais le fait de bien les avoir identifiés, de bien les connaître, ça permet ça. Ça permet de réguler un peu, d'harmoniser ses activités dans la journée pour trouver une forme d'équilibre. Ça permet d'être plus tolérant aussi avec soi quand on constate qu'effectivement, on peut avoir une nature, une intelligence qui n'est peut-être pas si élevée que ça. Et puis, ça permet de réfléchir peut-être à des solutions. Ça permet aussi de comprendre que les autres, des fois, ils n'y arrivent pas aussi bien que nous, mais peut-être parce que simplement, ils ont une nature ou une intelligence qui n'est pas aussi élevée que la nôtre dans la tâche requise.
Ok. Et donc, tu disais que l'éducation, en tout cas le système scolaire actuel, favorisait deux formes d'intelligence, la linguistique et la logique, je ne sais plus, logique.
Ouais.
Et ce qui peut traduire qu'il y ait beaucoup d'élèves en échec s'ils ne mobilisent pas, en tout cas s'ils n'ont pas de fort niveau au niveau de ces intelligences-là. Et qu'est-ce que tu conseillerais, ou en tout cas, quelle serait ta vision d'amélioration pour pouvoir, au final, avoir un système éducatif qui soit un peu plus dans une démarche d'inclusion?
Effectivement, dans l'idéal, et je sais que certains enseignants le font, certains enseignants qui sont sensibilisés notamment aux intelligences multiples, ils le font, mais généralement, c'est davantage chez les petits. C'est-à-dire que, voilà, en maternelle, en primaire, où là, il y a peut-être plus de possibilités d'offrir des activités variées qui vont permettre aux enfants de se tester dans différents domaines. Et ce qui pourrait vraiment là être hyper intéressant dans les écoles, c'est effectivement si j'identifie que j'ai un élève avec une forte intelligence musicale, une forte intelligence naturaliste, il va peut-être proposer des activités en lien avec ça et lui permettre du coup d'être dans la transmission aussi. C'est-à-dire que lui, qui sait faire et qui aime faire, parce que quand on est dans une intelligence très élevée, il s'agit de ça. Il s'agit à la fois de savoir la compétence de faire, mais en plus, vraiment d'aimer le faire, quoi. C'est-à-dire que quand je le fais, je gagne en énergie. C'est quelque chose qui me nourrit. Et voilà, et peut-être offrir justement des espaces à ces enfants-là pour qu'ils puissent juste partager avec les autres ce qu'ils aiment faire. En fait, c'est aussi simple que ça, je pense, pour des enfants. Mais je pense que certains élèves pourraient raccrocher l'école grâce à des outils comme cela, par exemple. Parce qu'à un moment donné, si c'est tout le temps la même chose et qu'ils s'ennuient ou qu'ils ne trouvent plus d'intérêt à l'école, c'est voilà, aller chercher qu'est-ce qui, eux, les stimule, qu'est-ce qui les fait vibrer et comment utiliser ça pour leur permettre de retrouver de l'envie, du goût, de la motivation et en faire aussi profiter les autres.
Ok. Et tout à l'heure, tu nous parlais de nature organisatrice. Ça m'intéresse beaucoup.
J'imagine.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus à ce sujet et comment cette nature peut s'exprimer au travers des différentes intelligences?
Alors, effectivement, la nature organisatrice, comme son nom l'indique, c'est la capacité à coordonner, à organiser. Alors, les gens qui ont une nature organisatrice très élevée, ils adorent les to-do list, par exemple. Ils vivent sous la devise chaque chose a une place, chaque place pour une chose. Donc voilà, c'est des gens qui vont adorer classer, ranger et qui vont kiffer faire ça en fait. Moi, j'ai pas une très grosse. Mon tigre organisateur, il est pas très très gros. Il a quand même pris un peu de poil de la bête avec les années et puis par obligation, puisque quand on devient parent, entre autres, on est obligé de trouver des trucs et des astuces pour mieux s'organiser. Et finalement, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Mais quand j'étais plus jeune, c'était super compliqué. C'était super compliqué pour moi, l'organisation. Je perdais très souvent mes affaires. J'étais incapable de me souvenir de mon emploi du temps, par exemple, quand j'étais au lycée. Donc on peut s'améliorer. Je confirme.
C'est une bonne nouvelle. Donc, on a une nature qui peut être donc plus ou moins forte, un gros tigre ou un petit tigre en organisation, et des intelligences. Toi, par exemple, tu disais que tu avais un petit moyen tigre. Il s'exprime comment au travers des intelligences phares qui te caractérisent?
Ouais, c'est compliqué de répondre à travers les intelligences pour ça. Parce que finalement, hein, la nature organisatrice, elle touche à plein de choses.
Est-ce que ça pourrait expliquer que, par exemple, une personne qui, comment dire, qui a une facilité de langage va être va s'organiser facilement dans tout ce qui est, je ne sais pas, par exemple, si elle a une dominance peut-être à enseigner, à organiser ses cours, à mettre en place ses cours, etc. Et au contraire, dans un autre domaine de sa vie, comme par exemple naturaliste, et qu'elle ait une petite intelligence naturaliste, du coup, elle serait un peu plus freestyle dans ce domaine-là. Je ne sais pas s'il y aurait quelque chose comme ça qui se traduirait, où on va l'utiliser plus d'une certaine manière ou d'une autre, selon nos forces, entre guillemets, d'intelligence.
Oui, alors effectivement, il y a des choses par exemple, là, effectivement, quand tu me parles d'organisation, si je prends mon exemple à moi, qui est aussi moi dans mes natures et dans mes intelligences, j'ai une grosse nature créative et j'ai une grosse nature visuelle graphique. Donc l'intelligence visuelle graphique, c'est vraiment la sensibilité aux couleurs, au dessin. Par exemple, moi, je vais être plus attirée par un bullet journal, par exemple. Je ne sais pas si tu connais le concept du bullet journal. Parce que du coup, dans mon organisation, je peux aussi nourrir mon tigre visuel graphique et mon tigre créatif. Donc, effectivement, quand on n'est pas super organisé, déjà, l'idée, ça va être d'essayer de voir où on peut trouver des outils. Est-ce qu'on peut déléguer aussi? Parce qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui peuvent avoir une grosse nature organisatrice et qui vont se faire un plaisir de faire les choses pour nous, pour peu qu'ils aient une nature serviable, impeccable. Et puis après, ça va être effectivement, moi, je pense à des outils comme Notion, comme Asana, comme Trello. Le Google Agenda, moi, je l'utilise vachement, mais le Google Agenda, il me parle parce que, du coup, c'est sur mon ordi, c'est sur mon téléphone. J'ai pas de papier. Moi, il me faut pas des carnets, sinon j'ai 3-4 carnets. Après, je les pose, je sais plus où ils sont. Donc, ça me stresse. Donc, j'ai essayé, moi, ça me convient pas. Mais pour d'autres personnes, ça peut vraiment leur convenir. Effectivement, il y a des gens, comme tu disais, intelligence linguistique, ils ont besoin d'écrire. Et en plus, ils vont mémoriser davantage en utilisant l'écrit. Donc, ils ont tout intérêt à faire ça. Et puis, effectivement, dans les choix que je fais d'utilisation de mes applications et de mes outils informatiques, je vais aller plus naturellement vers des outils où je peux mettre des couleurs. Voilà, c'est sûr que si je te fais un tableau Excel, il va y avoir de la couleur dans les colonnes, dans les lignes, parce que ça donne un petit peu plus de goût, du coup, à mon travail d'organisation.
Super, donc, morale de l'histoire, on peut s'améliorer, rien n'est figé, même si on part d'un petit tigre, et on peut trouver les outils qui nous correspondent le mieux et qui peuvent peut-être nourrir plusieurs tigres à la fois.
Ouais.
Ok, super. Et dans les personnes que tu accompagnes sur cette notion d'intelligence et de nature multiple, est-ce que tu as pu rencontrer un frein particulier qui les pousse à venir te voir?
Alors, moi, les personnes qui viennent me voir généralement, c'est soit plutôt des jeunes personnes. Quand je dis jeunes, des 18 ans, enfin voilà, des jeunes qui ont déjà, qui ont passé leur bac, qui ont fait une année d'études par exemple, et puis qui se rendent compte qu'en fait, ça ne leur convient pas. Et donc, où il y a eu une mauvaise orientation faite déjà au départ. Ou alors, c'est des personnes qui sont en reconversion professionnelle, donc dans des périodes de questionnement, de perte de sens. Parfois en situation de burn-out aussi. Et donc, quand ils arrivent, généralement, ils sont perdus, ils n'ont plus confiance en eux, ils ne savent plus par quel bout commencer. L'intérêt, enfin, cet outil-là, pour ça, il est vraiment. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il est à la fois facile à comprendre. Et il n'est pas enfermant. Moi, j'ai du mal avec. J'ai vraiment une vision globale de la personne. Pour ça, je disais, en fait, des fois, on parle des multipotentiels, mais je me dis, on est tous un peu multipotentiels quand même, puisqu'on a des intelligences et des natures multiples. Et le fait d'aller justement les visiter les unes après les autres, ça donne un éclairage aux personnes et souvent, ils comprennent, OK. Pourquoi j'ai été en burn-out? Parce qu'en fait, effectivement, mon tigre, je sais pas, je pense à quelqu'un, par exemple, qui était comptable dans une entreprise à qui on demandait beaucoup, qui était enfermé dans son bureau. Il a beaucoup mobilisé son intelligence logique, mais il avait aussi une forte intelligence naturaliste. Donc, c'est quelqu'un qui avait besoin d'être en contact avec la nature. Et à un moment donné, en fait, il arrive à saturation, quoi, parce que même son gros tigre logique peut être suralimenté. Et en fait, c'est ça souvent ce qui se passe, c'est que j'en peux plus parce qu'à un moment donné, j'ai suralimenté un de mes tigres, qu'il soit petit, moyen ou gros. Qu'il y a une surcharge à un moment donné. Et effectivement, quand la surcharge, elle est répétée dans un cadre de travail, à un moment donné, la personne, elle a plus de ressources. Et c'est là qu'elle s'arrête, quoi. Et donc, elle se rend compte de ça, qu'elles ont eu certains tigres qui ont été trop sollicités et, à contrario, que d'autres tigres qu'elles ont aussi assez importants n'ont pas été suffisamment nourris. Et des fois, ils n'avaient pas forcément identifié que ça, c'était aussi des choses importantes pour eux. Après, on est d'accord que nourrir ses tigres, entre guillemets, ce n'est pas uniquement dans le cadre professionnel, en fait. On est nourri dans toutes nos sphères de vie, professionnelles, familiales, amicales, dans nos sports et nos loisirs. Et c'est en ça que c'est un vrai outil d'alignement de l'être humain. Parce que du coup, je vais pouvoir aller visiter dans toutes mes sphères de vie. OK, où est-ce que je suis mobilisée pour telle et telle chose et rééquilibrer tout ça de façon globale, quoi.
Très bien. Et comment ça se passe un accompagnement avec toi si on veut travailler, découvrir ces intelligences et natures multiples?
Alors, le MN test, il se déroule en 4 étapes. Il y a d'abord un premier test en ligne de 72 questions et puis un second test en ligne adaptatif, du coup, qui va être différent en fonction des réponses qui ont été données sur le premier test. Une fois que les tests sont passés, moi, je récupère les résultats et ça me permet de construire ma séance d'accompagnement. Donc, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle l'évaluation en direct, qui peut se faire en présentiel ou en visio. Et là, du coup, pendant à peu près 2 heures, je dirais, on va aller visiter chacune des intelligences, chacune des natures. Et moi, je vais être là pour aiguiller la personne, lui donner des exemples, échanger avec elle aussi sur son parcours de vie, pour lui permettre de s'auto-évaluer. En fait. Au final, c'est pas moi qui vais dire « Ah ben, vous êtes à 5 ou vous êtes à 8 ». Non, je demande à la personne, déjà, à votre avis, est-ce que vous êtes plutôt en haut, en bas ou au milieu ? Et puis, en fonction de ça, je vais lui faire lire un texte qui correspond à chaque niveau. Et je vais lui faire lire en dessous, au-dessus. Voilà. Et je vais lui demander de s'auto-évaluer, sachant que rien n'est fermé, elle peut revenir dessus, elle peut modifier. L'intérêt, en fait, c'est que ça soit cohérent. Que le niveau de chacune des intelligences et chacune des natures soient cohérentes les uns par rapport aux autres. Et c'est OK aussi, il faut vraiment sortir de l'idée qu'avoir 10 c'est bien et 1 c'est pas bien, quoi. Au contraire, c'est intéressant aussi qu'il y ait des contrastes. Donc en fait, on peut. 3 c'est OK d'avoir 3, c'est bien aussi. On ne peut pas avoir des grosses natures partout, quoi. Ça peut être compliqué d'ailleurs pour les gens qui ont ce profil un peu multipotentiel avec des gros tigres. Là, professionnellement, c'est compliqué, souvent, de faire des choix. Qu'est-ce que je disais ? Je m'égare. C'était quoi ta question de départ ?
C'était comment se passe le coaching et t'en étais arrivée à l'échelle d'évaluation.
L'évaluation en direct. Voilà, donc la troisième étape, c'est l'évaluation en direct. Et puis la troisième étape, ça va être un peu la phase de conclusion où là, en fait, je rentre les données dans un algorithme qui va sortir une liste de loisirs, de tâches et de métiers qui vont correspondre au plus près au profil de la personne. Donc là, après, comme je dis aux gens, ça vous correspond, ça ne veut pas dire que ça va vous plaire. Donc, on regarde ça ensemble et puis, ils choisissent de sélectionner ou de désélectionner ce qui leur convient, ce qui ne leur convient pas. Et donc, à l'issue de ça, ils reçoivent un rapport d'une trentaine de pages avec le niveau de chacune de leur intelligence, de leur nature, à quoi ça correspond. Un diagramme également, et puis donc la liste des loisirs, tâches et métiers qui sont sélectionnés, avec pour les métiers, pour les carrières, un diagramme qui vient se superposer aux leurs, en fait. Ça permet vraiment de voir, puisque chaque métier, ce sont des activités, et chaque activité va venir mobiliser plusieurs intelligences ou plusieurs natures. Donc avec ça, ça permet de voir effectivement est-ce que ça va être nourri au juste niveau. Si c'est un petit peu plus ou un petit peu moins, c'est OK. Par contre, si on constate qu'il y a 2 points de différence en plus ou en moins, là, on sait que, attention, point de vigilance, à un moment donné, ça peut être trop mobilisant ou pas assez. Et donc, comment équilibrer ça après au quotidien, dans les autres sphères de vie. Voilà, donc ça, c'est le MN test. Et puis après, dans le cadre des bilans de compétences, là, c'est plus long. Du coup, les bilans de compétences durent en moyenne 12 heures, en général, ce que je fais. Donc là, après, j'accompagne aussi avec mes autres outils, dont la médiation artistique, pour aller identifier tous les talents, toutes les forces, tous les potentiels, tous les atouts qui sont là pour une vie plus épanouie et effectivement plus alignée, quoi. Et si chacun pouvait faire un métier dans lequel il nourrit ses gros tigres et où il s'éclate, mais le monde irait quand même beaucoup mieux.
Pour la petite anecdote, j'avais passé un test de psychologie ou de personnalité pour un entretien d'embauche. Et à la fin, il me sortait toute une liste de métiers organisés selon une note par rapport à mon profil. Et ce qui m'avait fait bien rire, c'était que le premier résultat était agriculteur. Et du coup, j'étais vraiment restée super étonnée de me dire que mon profil pouvait s'apparenter au métier agricultrice parce que je suis à l'heure actuelle à milieu, je ne saurais même pas planter une carotte, donc c'était vraiment étonnant, ça m'avait vraiment surprise.
Bah ouais, en effet.
Donc voilà, c'était juste pour la petite anecdote. Ouais.
Ben oui, du coup, c'est là que c'est intéressant de comprendre un petit peu comment les tests sont faits et qu'est-ce qui permet au logiciel ou à l'algorithme de trouver ce résultat-là, quoi.
Et donc, tu disais que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, que tu connaissais déjà les intelligences multiples. Et que ce passage à l'entrepreneuriat a été impulsé potentiellement par ta nature aventurière. Est-ce que tu as eu des croyances, des peurs, des freins avant de te lancer, si ce n'est de passer d'un CDI à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a freiné? Qu'est-ce qui t'a bloqué et comment tu as dépassé ça?
Là, tu parles à quelqu'un qui disait il y a plusieurs années qu'elle resterait salariée toute sa vie parce que c'était très bien comme ça, que le monde de l'entreprise, c'est un inconnu total. Chez moi, il n'y a que des fonctionnaires. Mes parents étaient infirmiers, mes oncles et tantes étaient instits. Je suis encore même surprise des fois. Ça, ah ouais, que j'en suis là aujourd'hui. Donc oui, évidemment qu'il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. J'allais dire de soutien, mais en fait, pas tant finalement. Je me rends compte que à l'époque où j'étais encore avec le papa de mes enfants, parce que je suis séparée là depuis plusieurs années maintenant, depuis 6 ans, mais je n'avais pas suffisamment confiance en moi et j'aurais eu besoin que lui me dise « Mais si, vas-y, tu peux y aller, lance-toi, crée ton projet. » Sauf que lui était déjà travailleur indépendant. Et que il y avait ce fait que c'était rassurant que moi je reste salariée. Et donc comme quoi c'est surprenant finalement, je me dis c'est pas tant quand la situation était financièrement plus sécu, on va dire, que j'ai osé me lancer en fait. Et je me découvre une nature aventurière que je ne me connaissais pas tant que ça, parce que j'aime bien voyager en sac à dos et tout, mais je ne suis pas une grosse aventurière. Et finalement, je me rends compte qu'avec l'entrepreneuriat, de plus en plus, et je trouve que c'est stimulant et ça vient de nourrir aussi, ça m'oblige à être créative, entre autres. J'adore parce que la routine, ça ne me va pas, ce n'est pas mon truc. Donc, d'avoir des activités diversifiées comme je fais, pour moi, c'est génial. Après, je ne dis pas que c'est facile, hein, parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il n'y a pas de constance au niveau de la rémunération. Mais il a fallu que je dépasse mes peurs et puis celles de mes proches aussi, de ma mère, de mon père, qui me disaient « Ah ouais, mais t'es sûre, est-ce que tu vas y arriver ?» Qui s'inquiétaient pour moi, c'était gentil, mais ça ne m'aidait pas au final. Voilà, et puis je crois que, je ne sais pas, il y a eu vraiment un moment donné où j'ai eu l'impression que c'était mon âme qui à l'intérieur de moi qui tapait. C'est bizarre, hein, mais je l'ai vécu un peu comme ça dans mon corps. Je me souviens de cette fois-là où je montais les escaliers pour aller au bureau et j'ai eu l'impression de sentir ça comme si mon âme, elle hurlait à l'intérieur en disant « Mais quand est-ce que tu vas me laisser sortir ?» quand est-ce que tu vas me laisser vivre ce que j'ai à vivre, quoi. Tu es en train de te gâcher. J'ai vraiment eu cette impression-là et ce sentiment-là. Voilà, et puis, c'est des déclics aussi. Je pense que ça fait partie de ce cheminement de travail personnel, de remise en question. Je me rappelle de voir un post Facebook d'une femme art-thérapeute dans le Nord qui proposait un tas de trucs en me disant mais moi, c'est ça que je veux faire. Et tu vois la petite phrase que tu disais, que tu te répétais, que tu es nulle, que tu n'arriveras jamais. Mais ça m'est revenu en plein dans la figure. J'avais envie de pleurer, quoi, de me dire mais ouais, mais elle le fait, et moi, je ne le fais pas. Et voilà. Et à un moment donné, c'est de se dire bon, bah, stop, maintenant, ça suffit, tu veux le faire, et ben. Ok, comment tu peux te donner les moyens d'y arriver? Tu veux aussi accompagner les gens pour qu'ils aillent vers leurs rêves, donc bah, commence par toi en fait. Voilà, c'est toi qui détiens les clés de ton bonheur, c'est toi qui fais tes choix. Donc oui, c'est pas facile, j'ai fait un post sur les choix d'ailleurs il y a quelques jours. C'est pas facile, nos choix ils sont quand même super déterminés. Mais plus on apprend sur soi, plus on se comprend, plus on identifie ses modes de fonctionnement, ses croyances limitantes, ses sabotages, et ben plus on gagne en conscience et plus on peut agir dessus. Et c'est là qu'on récupère de la liberté. Donc, ouais, vive la connaissance de soi et le développement personnel.
Ça tombe bien. Est-ce que tu aurais une pratique ludique à partager aux auditrices pour les aider à passer à l'action et gagner en confiance?
Elles sont toutes tellement différentes, ces auditrices, qu'il faudrait des exercices adaptés à chacune et à ce qui... Et à ce qui les fait vibrer ou ce qui leur plaît. Après, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup pratiquer, c'est la visualisation. Ça, c'est important aussi que les gens comprennent effectivement que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction, en fait. Là, comme ça, ce qui me vient, ce serait, je les inviterais à faire un vision board, un tableau de visualisation. Je ne sais pas si tu connais.
Oui.
Mais voilà, le cerveau, il fonctionne beaucoup avec les images aussi, justement. Et le tableau de visualisation, c'est simple. Il suffit d'avoir des revues. Moi, je trouve plus sympa de le pratiquer avec des revues plutôt que d'aller chercher des images sur Internet. Parce que quand on a des revues, c'est un peu les images qui viennent à nous aussi. Il se passe autre chose. Et donc, l'idée, c'est de chercher des images qui viennent résonner, qui vibrent par rapport à nos projets, nos envies, nos rêves, nos aspirations, et d'en faire une composition en collage sur une feuille. Et surtout, ensuite, de s'en inspirer quotidiennement. Parce que faire un tableau de visualisation pour en faire un, ça ne sert à rien. Mais par contre, l'idée, c'est de le mettre sur son frigo ou dans un endroit et puis, où on passe devant tous les jours et puis d'aller le regarder et de focusser là-dessus sur ce vers quoi on a envie d'aller. Et en faisant ça, en fait, on envoie des informations au cerveau, à l'inconscient qui comprend qu'effectivement, l'objectif à atteindre, c'est celui-là. Et petit à petit, ça permet aussi d'enclencher des actions, de mettre en route peut-être de créer des opportunités ou voilà, en tout cas je prends souvent le mien, j'en ai fait un il y a 12 ans, donc j'étais très loin de ce que je fais aujourd'hui, et si je regarde mon tableau, bah, dedans il y avait un atelier de la peinture, du relationnel, de l'éducation des enfants, enfin voilà. Et, alors c'est pas magique, ça prend du temps. Effectivement, il faut aussi mettre en place des actions pour que ça marche, mais c'est quelque chose qui peut aider pour atteindre ses objectifs. Et c'est vraiment okay. Un outil d'entraînement mental qui est utilisé chez les grands sportifs de haut niveau aussi, la visualisation. Hein. quand un grand sportif, il commence sa course ou quoi, il s'est visualisé gagner, il s'est visualisé sur le podium en number one, il s'est pas visualisé en deuxième ou en troisième. Donc oui, on peut créer notre réalité avec nos pensées et avec les messages qu'on envoie aussi à notre inconscient. Donc voilà, une petite idée pour les visuels graphiques et les natures créatives.
Ok, super. Je passe à la question taboue qui est...
Une question taboue ? Et t'étais pas au courant ?
Surprise. Qui est donc tu disais que les personnes atypiques ou multipotentielles, elles avaient peut-être des intelligences assez fortes dans plusieurs domaines qui pouvaient les challenger. Et du coup, quelles sont les caractéristiques de ces personnes-là et qu'est-ce qui fait qu'elles fonctionnent différemment ? Est-ce que c'est en jeu justement avec ces natures et ces intelligences, selon toi ?
Ce qui est compliqué, c'est que c'est des personnes qui vont s'intéresser à plein de sujets différents. J'aime beaucoup, d'ailleurs, il y a une émission YouTube là-dessus de Emily Whitney, je crois, qui est vachement intéressant, où elle explique qu'il peut y avoir il y a des gens qui sont des experts en leur domaine et on a besoin d'avoir des experts. Et puis, il y en a d'autres qui sont justement ces multipotentiels qui ne vont pas être experts forcément dans un domaine parce qu'ils sont touche à tout. C'est ce qu'on les appelle aussi un peu les couteaux suisses. Mais par contre, ils vont avoir une grande curiosité, s'intéresser à plein de sujets. Et elle explique en quoi c'est important qu'on ait et à la fois des gens comme ça et à la fois des experts. Parce que c'est en travaillant ensemble qu'on arrive à construire, à élaborer et à faire des choses incroyables. Et c'est vrai que ce qui peut être compliqué dans un métier pour ces gens-là, c'est que souvent, un poste de travail, il a sa fiche de poste, en fait, avec un certain nombre de choses, de tâches à faire. Et si c'est trop cloisonnant, si c'est trop enfermant, si ces gens-là ne peuvent pas être dans une forme d'intrapreneuriat au sein de l'entreprise, s'ils sont salariés, c'est-à-dire être force de proposition, s'engager sur des nouveaux projets, à un moment donné, ils s'essoufflent. Et c'est pour ça que finalement, il y en a beaucoup qui décident de créer leur propre entreprise parce qu'ils vont créer un métier qui n'existe pas. Un métier qui va leur ressembler, où ils vont pouvoir exploiter toutes leurs cartes, tout leur potentiel. Et c'est souvent, parmi les entrepreneurs. D'ailleurs, pour être entrepreneur, ne faut-il pas déjà être un petit peu multipotentiel quand on voit qu'il faut à la fois gérer de la comptabilité, de la communication, de la relation client, plus faire son travail. C'est super intéressant et faut que ces gens-là se rendent compte que c'est une chance en fait. C'est un peu comme les gens qui sont hypersensibles, c'est pas toujours simple parce que il faut s'accueillir avec cette dimension-là, mais moi je pense qu'on peut faire une force de tout ça, de toutes ces idées qui vont dans tous les sens, de cette sensibilité ou cette émotivité que certains peuvent avoir. Je pense que justement, nos différences, elles sont hyper enrichissantes et qu'on peut faire parfois de ce qu'on pense être une difficulté, un atout et une qualité.
Ok. Elle sera quoi et elle fera quoi, Nolwenn, dans 5 ans ?
Dans 5 ans ? Focus rêve. Je me suis dit que j'aimerais avoir une grande salle, un atelier, parce que j'ai déjà un espace où je reçois des gens, mais j'aimerais un atelier où les gens pourraient peindre debout, soit avec des chevalets, soit directement au mur. Parce que je trouve que, de toute façon, il ne se passe pas la même chose quand on pratique sur table, quand on pratique par terre. J'aime beaucoup, moi, proposer ça, la pratique par terre. Et quand on est debout, il se passe encore autre chose. Voilà. Et je trouve intéressant d'inclure le mouvement corporel aussi dans les arts graphiques. Quand on est devant une table, on est bloqué par une table. Alors que quand, voilà, on peut investir autrement son ouvrage quand on est vraiment libre. Donc, ouais, dans 5 ans, je me dis, ouais, ça serait génial d'avoir un espace comme ça d'accueil où les personnes pourraient venir s'exprimer à travers l'art et faire des ateliers peut-être enfants-parents pour toujours améliorer les relations, la communication, la connaissance de soi et des autres. Et voilà, je ne sais pas comment je l'appellerais. Mais ça sera une chouette réalisation.
Ok. Et je passe à la question girly qui est tout simplement, est-ce que tu as un mantra ou une incantation qui t'inspire et que tu te répètes tous les jours ?
Ce n'est pas tous les jours, mais souvent, en ce moment, ça me revient. C'est une amie qui m'avait dit ça. C'est « je m'attends à tout, je m'attends à rien ».
Ok.
Je m'attends à tout, je m'attends à rien. En permanence, accueil de l'instant présent. Voilà, c'est aussi intéressant pour travailler sur les attentes des fois quand on a de fortes attentes ou qu'on met des fois de trop d'attachement dans certaines choses, relations, projets. Voilà. Faire baisser la pression. Ok. J'ai fait les choses, maintenant je m'attends à tout, je m'attends à rien.
Super. Namasté. Eh bien, je sonne officiellement le clap de fin avec le portrait. Tout simplement, une description intuitive et bienveillante de mon invité du jour. Parce que de se connecter et de se reconnecter les unes aux autres, c'est essentiel à mon sens. Et parce qu'apprendre à donner et recevoir, c'est la base. Alors, c'est parti. Nolwenn reçoit la perception que j'ai de toi. Nolwenn, je perçois de toi un lutin, un compagnon de la nature gai et souriant, une âme d'enseignante qui vise à inclure tout à chacun dans sa particularité. Nolwenn, la maîtresse des puzzles, elle nous accompagne à mieux comprendre notre forme, ce qu'elle a de spécial pour s'accueillir et grandir dans notre unicité. Un peu comme le poulpe et ses nombreuses tentacules, elle nous aide à voir nos multiples facettes et le cadeau que cela est. Telle une déesse du tigre, elle nous invite à dompter nos tigres et devenir nous aussi des déesses du tigre fortes et multipotentielles. Apprendre à s'accepter et à se reconnaître à travers nos propres yeux sans comparaison et déformation par le filtre de la société. Juste nous, nos formes multiples et nos tigres. Merci Nolwenn, est-ce que tu as quelque chose que tu souhaiterais ajouter ?
Non, juste te remercier pour cette expérience. Du coup, voilà, là, j'ai nourri un petit peu ma nature aventurière avec toi aujourd'hui et mon intelligence interpersonnelle aussi avec toi là. Et je me dis que ça va continuer à travers la diffusion de ce podcast. Donc, voilà, merci beaucoup.
Merci à toi. Quelles sont tes prochaines aventures et où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, prochaine aventure, on doit pouvoir me retrouver à la Cité des métiers de Saint-Pierre le 12 avril, le 19 avril, autant pour moi, où je vais faire une petite présentation, une introduction aux intelligences aux natures. On peut me retrouver sur Instagram, sur LinkedIn, sur Facebook, à Nolwenn Poins. Voilà, comme je fais tellement de choses, j'ai mis mon nom et mon prénom parce que j'arrive toujours pas à trouver le nom de mon métier vraiment.
Ça marche.
Voilà, et ouais, les projets. En ce moment, c'est beaucoup de choses autour de la parentalité. Beaucoup de demandes autour de ça. Et puis toujours les bilans de compétences. Donc ça, c'est une part de mon activité que j'adore. Voir les gens qui repartent avec des étoiles dans les yeux, c'est magique.
Bah, merci beaucoup, Nolwenn.
Merci à toi.
Merci beaucoup Nolwenn et Christelle pour ce partage d'informations. J'ai trouvé ça hyper riche et hyper intéressant. Ce qui m'a marqué déjà premièrement, c'est la notion de progressivité, notamment dans le changement d'activité. Nolwenn nous a partagé comme quoi elle avait profité d'un chômage partiel pour préparer son nouveau statut, sa nouvelle activité après son CDI. Et je trouve que c'est une notion qui est hyper intéressante et qui était soulignée aussi dans Olivier Clerc, dans son livre « Lâche ce trapèze et attrape le suivant ». Il évoquait que certaines personnes avaient besoin d'un filet de sécurité pour changer comme ça d'activité, d'orientation dans la vie. Et je trouve que le fait de le faire de manière progressive, eh ben ça permet d'augmenter la joie de changer en diminuant la partie flippée en nous de changer. C'est exactement les deux parts qu'avait mentionné Nolwenn. Elle avait dit que quand elle a changé, elle a dit « Ouais, j'ai une partie flippée » et en même temps une partie qui était super en joie. Et ben, je pense que d'être progressif pour certaines personnes, ça peut augmenter la partie en joie et diminuer la partie flippée. Et en ça, donc pour mettre de la progressivité dans son changement de statut, on peut donc le chômage partiel, le 4/5e. Il y a des personnes que je connais qui font un 4/5e, comme ça, ils se font une coupure dans la semaine de travail. Ils ont une journée pour enfin voir ce que ça donne s'ils avaient une journée à gérer le temps exactement comme ils le souhaitaient. Ça leur permet de développer un réseau, de réfléchir à l'offre qu'ils veulent proposer. Et donc toutes ces natures, ces démarches pour être dans la progressivité, moi c'est quelque chose que je trouve vraiment hyper intéressant et que pour certaines personnes qui ont besoin de sécurité, je trouve que cette notion de progressivité, elle est hyper cool. L'autre chose qui m'a vraiment marqué, c'est d'apprendre sur les différentes natures qu'on a en nous et les différentes intelligences. Ça, j'ai trouvé ça très 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 riche pour dans sa vie quotidienne, notamment la notion comme l'a dit Nolwenn, qu'on a des grands tigres qui ont on a des grands besoins à nourrir et d'autres des plus petits besoins. Et ça, je trouve que si on prend l'exemple de la personne naturaliste qui a besoin d'être dans la nature, et ben de le savoir, je trouve que ça va être hyper intéressant pour structurer son agenda. De se dire, je sais que j'ai besoin de grandes plages de temps dans la nature, et du coup, de se dire, d'avoir conscience de ça et de les positionner dans son agenda, et de se dire que c'est pas un luxe de le faire, c'est juste un besoin vital pour être heureux, aligné, et développer ensuite tout son bonheur et toute sa créativité. Donc ça, je trouve que c'est super intéressant. Et l'autre chose qui m'a hyper marqué aussi, c'est le comment adapter son organisation à ses natures et à sa nature et à son intelligence. L'exemple que disait Nolwenn du bullet journal, elle qui est très visuelle, et ben je trouve que c'est hyper cool parce que parfois on veut faire la même chose que les autres parce qu'on se dit les gens qui sont organisés ils font ceci, ils font cela, et finalement en suivant sa joie, en suivant ses compétences et ce qui est facile pour nous, on peut arriver au même résultat et avec beaucoup plus de facilité. J'ai une amie qui, au début, elle voulait écrire des articles LinkedIn parce qu'elle se disait que c'est ça qui se faisait, que c'était la classe. Et finalement, de plus en plus, elle, comme elle aime l'aspect visuel et qu'elle aime faire des petits sketch notes, et ben à la place, elle fait des sketch notes à la place de grands articles, elle qui n'est pas trop au niveau des mots. Et elle s'éclate, elle produit des choses, elle est fière, ça avance, et finalement, en connaissant sa nature et son intelligence, c'est vrai que tout devient plus simple, et tout se fait dans la joie, qui est vraiment la thématique clé, comme l'a indiqué Nolwenn, et c'est exactement aussi ce dont parle Spinoza. Vous pouvez voir les livres de Frédéric Lenoir sur Spinoza, qui parle de l'importance de la joie, d'être dans la passion, le plaisir, pour avancer. Voilà, donc merci beaucoup Christelle et Nolwenn, merci beaucoup les Farpettes et exposez le cadre.
c'est parti pour le plan d'action. Donc en 1, Nolwenn te conseille de visualiser ce que tu souhaites vivre et expérimenter, être et avoir. Et pour cela, tu peux t'aider du tableau de visualisation. Je te mets d'ailleurs en description le lien vers l'épisode qui traite de ce sujet que nous avons créé avec Sylvain pour t'aider dans ta progression. En 2, tu peux éventuellement aller faire ce test d'intelligence, le MN test, avec Nolwenn pour mieux comprendre et connaître et aller à la découverte de tes intelligences et natures multiples. Et enfin, commencer à t'organiser de manière plus sereine et adaptée à ton profil. Et en 3, bien sûr, une fois que tu connais tes intelligences et tes natures multiples, tu peux identifier les outils d'organisation qui te correspondent. Et j'espère que tu as compris qu'il n'existe pas une bonne façon de s'organiser, mais des façons propres à chacun de s'organiser et que la désorganisation n'est pas une fatalité, c'est juste un manque de méthode ou de méthode adaptée à ton profil et à tes besoins. Donc tu peux aller t'entraîner à dompter ton tigre organisationnel pour qu'il grandisse et te serve à hauteur de tes besoins. Alors stop à la perfection et à la procrastination. C'est parti, je te laisse te mettre à l'action dans une action alignée et source de motivation et surtout d'inspiration. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Retrouve toutes les informations partagées par Nolwenn et Sylvain en description de l'épisode. Et maintenant, c'est à toi de passer à l'action. Et si tu as apprécié ce que tu as entendu, je te remercie de nous le dire en laissant une évaluation positive de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou encore Spotify, ou de nous laisser tes questions et commentaires sur le site internet christelleattic.fr. Ton soutien est bien plus qu'un simple geste. C'est vraiment un signe que notre communauté grandit et que nos histoires résonnent en toi. Nous avons hâte de te retrouver dans le prochain épisode. Souviens-toi de rester cool, de savourer chaque instant et de vivre pleinement, sereinement. C'est dans ces moments que la magie de la vie se déploie. Alors, à bientôt. Keep cool!